enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ensemble dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13. Matthieu 13, les versets 4 à 9. Et puis les versets 18 et les suivants. Le thème sera quatre catégories d'hommes en route vers l'éternité. À quelle catégorie appartiens-tu ? Quatre catégories d'hommes en route vers l'éternité. À quelle catégorie appartiens-tu ? Lisons. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi la parles-tu en parabole ?» Et Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Verset 18. « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans un endroit pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle. Et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Dans les versets 37 et 39 suivants, nous lisons ensemble l'explication de la parabole, ou plutôt les commentaires qui permettent de mieux saisir encore la parabole. Il est dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. On ne peut plus clair. Enfin, allez avec vous tranquillement cheminer sur ces quatre chemins ou voir avec vous les quatre catégories d'hommes et de femmes décrits dans cette parabole du semeur. La Bible déclare que, eh bien, Dieu a tant aimé le monde. Et en parlant du monde, ce ne sont pas des montagnes ou de la mer qu'il a parlé, mais des hommes et des femmes qui habitent ce monde. Et s'il y a une vérité fondamentale sur laquelle je peux vraiment insister lourdement, c'est que Dieu aime tous les hommes. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, Dieu vous aime profondément. Dieu vous aime. Vous dites, mais moi je suis malade, moi je suis peut-être maltraité, j'ai eu une éducation terrible, peu importe, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, et Dieu vous aime. Et j'aimerais dire aux croyants de longue date, Dieu vous aime, vous aussi. Et j'aimerais dire aux croyants qui ont chuté récemment dans le péché, Dieu vous aime encore. Restez à l'écoute. Tout d'abord, il y a les gens long du chemin. Ce qui est étonnant dans ce parabole, c'est que Jésus a semé partout. Preuve de son amour pour tous les hommes. Quel bon semeur, quel bon cultivateur va ensemencer un chemin ? Aucun. Mais Dieu aime tous les hommes. Alors, qui sont ces gens le long du chemin? Il me semble qu'il y a là les gens qui méprisent profondément les choses saintes. Ils sont inintéressés, opposés. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Vous leur parlez de Dieu, ils n'ont pas le temps. Parler de football, ils ont le temps. Parler de pêche, ils ont le temps. De beauté, ils ont le temps. Mais de Dieu, non merci. Ce sont les gens, assis dans une salle comme celle-ci, ce soir, qui sont là de force, ou pour faire plaisir à quelqu'un, mais constamment, ils regardent l'heure tournée. Vivement que ça se termine, que le prédicateur arrête de parler. L'important, c'est le score du match de football. Strasbourg ou PSG. C'est ça l'important. Les gens le long du chemin sont des gens qui parlent ainsi. Dieu, je verrai plus tard. Maintenant, je suis trop jeune. J'ai pas le temps. Je suis hyperactif. Ouais, très bien. Mais un jour, il peut être trop tard. Je me rappelle d'un homme à qui on a pu témoigner de temps en temps, simplement. Il n'avait jamais le temps. Jamais le temps. Il est arrivé à la retraite, il n'avait toujours pas le temps. Et voilà qu'un jour, en se promenant en voiture avec un collègue sur les hauteurs des Vosges, sa fille étant derrière avec sa mère, voilà que tout à coup il dira à son collègue: « Oh, que la vallée est belle! Oh, que les Vosges sont belles, excusez-moi !» Et pendant qu'il dit ça, le collègue acquiesce. Et le collègue de lui demander: « T'as vu ceci, t'as vu cela ?» Et tout à coup, ce monsieur ne répondit plus. Trop tard, c'était fini. Terminé. Trop tard. Les gens le long du chemin, ce sont les gens avec des préjugés, les athées, les impies, les arrogants qui vous diront en face, je n'ai ni Dieu ni maître. Ils vivent sans Dieu, sans prier. Ils n'ont pas de sens à l'existence. Ils n'ont pas de paix au fond d'eux-mêmes. Et souvent, les propres justes appartiennent aussi à la catégorie des gens le long du chemin. Ceux qui vous disent: « Moi je vais bien monsieur, je ne vole pas, je ne tue pas, je mens un peu comme tout le monde, mais je ne suis pas si mal que ça. Sûrement que Dieu fermera un œil quand j'irai au ciel. Et je passerai par les mailles du filet. » J'aimerais vous dire, c'est faux. Vous ne passerez pas les mailles du filet. Vous pensez être juste? Ce livre-là, vous en avez toute illusion. La Bible dit que tout homme est pécheur. Que tous ont péché. Qu'il n'y a pas un seul juste. Même pas un seul. C'est terminé maintenant. Il n'y a pas de juste devant Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'en ayant un habit religieux, eh bien ils iront au ciel. Comme si l'habit faisait le moine. Ou comme si en habillant votre chien d'un beau costume, vous en faisiez un homme d'affaires. Ça n'a pas de sens. Un chien reste un chien. Même en cravate, n'est-ce pas? Un pécheur reste un pécheur. Même en habit religieux. Le problème, ce n'est pas l'habit, mais c'est le cœur. C'est la nature de l'être humain. Un poirier donne des poires. Vous avez beau les badigeonner de belles peintures rouges et jaunes pour en faire une belle pomme, ça restera encore une poire. Et puis c'est une bonne poire. Et un pécheur par nature est pécheur. Et par nature, nous sommes tous des pécheurs. Et par nature, nous produirons d'office des péchés. Et ce qu'il nous faut, ce n'est pas juste un ravalement de façade, mais une transformation du cœur et de l'esprit. Bien aimé, il faut beaucoup plus que juste un ravalement de façade religieux. Il nous faut un changement de l'esprit. J'aime le texte de Matthieu 25, verset 13, où nous voyons nous avons un petit coup d'œil sur l'avenir de l'humanité. Et il est dit en quelques versets: toutes les nations seront rassemblées devant le Christ. Et là, il se fera un tri. Et il est dit du Seigneur qu'il séparera le monde entier, l'humanité entière, en deux catégories: les boucs et les brebis. Et mes amis, il fera ça naturellement. Parce qu'un bouc, même au ciel, restera un bouc. Et une brebis restera une brebis. Et même les boucs qui pensent qu'avant de monter au ciel, ils peuvent couper les cornes et que Dieu ne verra rien, j'aimerais vous dire, même sans cornes, un bouc reste un bouc. Et un pécheur, un pécheur. Et ce qu'il te faut, c'est changer de nature profonde. Et pour cela, il te faut naître de nouveau. Jésus dira rarement cela, il faut. Mais à ce moment-là, il dira, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu te repentes de tes péchés et que tu reçoives le Christ dans ta vie. Il te faut l'inviter au fond de toi-même. Pas juste connaître Dieu. Il y a des gens qui auront été en train de prier Dieu et Dieu leur aura répondu. Et ils penseront que par cela, ils seront OK avec Dieu. Mais c'est faux. Il y a un tas de gens qui auront crié à Dieu et qui n'iront pas au ciel pour autant, malgré le fait que leur prière ait été exaucée. Un jour, 10 lépreux vinrent à Jésus. Les 10 ont eu foi en lui. Les 10 ont été malheureux et ont crié à Dieu. Un seul est revenu. Un seul a suivi Jésus. Un seul a été sauvé. Pourtant, les 10 et les 9 autres ont aussi obtenu gain de cause, ont aussi été exaucés, et pourtant, ils n'ont pas suivi Jésus. Les gens le long du chemin. Mes amis, il y a un texte terrible dans Jean 1, verset 11, qui dit « Il est venu chez les siens », en parlant du Christ, « et les siens ne l'ont pas reçu ou ne l'ont pas accueilli ». Mes amis, vous avez beau être né chrétien ou dans une famille chrétienne, ça ne vous sauve de rien du tout. Si ça vous empêchera de faire des bêtises, on essaiera de vous aider à marcher avec Dieu, mais viendra le jour où vous devrez décider de suivre le Christ vous-même. Où vous devrez décider de le recevoir en vous-même. Et tant que ce n'est pas fait, vous êtes perdu dans votre péché. Parce que par nature, vous êtes un pécheur. Il te faut naître de nouveau. Et Jésus va dire ça à un homme du nom de Nicodème, à un pharisien, un homme éduqué, un homme instruit dans la parole de Dieu. Mais cet homme-là était loin de connaître Dieu. Beaucoup de gens sous Dieu mais ne connaissent pas Dieu lui-même. Pour être religieux ou religieuse, avoir été baptisé en tant qu'enfant, avoir eu la confirmation, etc., etc., ça ne te sauve pas. Il te faut naître de nouveau, faute de quoi tu vas dans les ténèbres de la perdition. Tu vas me dire, mais moi, monsieur, je n'ai que faire de vos discours. Très bien. Vous pouvez rester comme vous êtes. Mais j'aimerais vous dire, des gens comme vous meurent aussi. Je mourrai un jour avec l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la gloire éternelle. Et vous mourrez aussi. Les impies meurent aussi. C'est Frédéric Nietzsche qui dira, Dieu est mort. Dieu reste mort. Nous l'avons tué. Mes amis, un jour, un critique de Nietzsche a écrit sur un des murs de New York la phrase suivante. Nietzsche est mort aussi, signé Dieu. Et mes amis, ce qui est terrible, c'est qu'une fois que vous êtes mort, c'est terminé, votre choix est fait. On ne change plus rien. Aujourd'hui, mon ami, Dieu frappe à la porte de ton cœur. Aujourd'hui, décide-toi pour lui. Demain, il se peut qu'il soit trop tard. Passons à la seconde catégorie. Voilà. Le sol pierreux, et c'est le genre de personnages qui, en apparence, sont bien. Vous avez l'impression qu'ils vont comprendre et percuter, mais dès qu'il faut aller en profondeur, on heurte un terrain plus dur. On heurte une résistance à l'évangile, une résistance à l'esprit de Dieu, un esprit résistant à la volonté de Dieu. Ce sont les gens qui, chez qui la semence a du mal à pénétrer. Oui, au début, ça grandit très vite. On a le sentiment que ça va être formidable. Oui, des démarrages de vie chrétienne fulgurants. Et tout à coup, tout s'écroule, comme cire au soleil. Ce sont les gens qui vont être ballottés à tout vent. Le dernier qui parle a raison. Ils partiront ce soir d'ici en disant, quelle super prédication, ça m'a fait du bien. Demain matin, ils verront un collègue qui lui dira, mais t'étais où hier soir? J'étais à la porte ouverte. Il suffit qu'ils disent, t'es allé à la secte là-bas? Tu te rends compte? On va te voler ton argent, te divorcer de ta femme, on va te remarier avec une autre, une adepte. Et ça y est, c'est terminé. La belle semence a monté une nuit, et le lendemain a flétri. Et mes amis, ce n'est pas si peu courant que cela. Ça existe, malheureusement. Ce sont les gens qui sont pour Dieu. Oui, quand tout le monde chante Alléluia, ils chantent Alléluia. Quand tout le monde lève les mains, ils lèvent les mains. Dans la foule, ils font avec. Mais le lendemain matin, ils changent de discours. Ce sont les caméléons spirituels, ils savent s'adapter à toute situation, toujours parfaitement adaptés à l'environnement. Oui, les caméléons. Même des fois, ces caméléons ont des responsabilités spirituelles dans les églises. Ils savent dire aux pasteurs ce qu'ils devraient faire, mais eux-mêmes.
Allez voir écouter leurs femmes et vous allez découvrir que ce brave frère n'est pas aussi brave que cela. Pour combien de soi-disant chrétiens de France, leur vie chrétienne n'est qu'un show. Oui, on a eu tous les sacrements, mais en définitive, le Christ lui-même, on ne connaît pas trop. Sa parole, encore moins. D'ailleurs, s'il y mettait le nez dedans, c'est gêné, parce que ça ne reprendrait tellement que... Vite, fermons-le, ce bouquin. Le seul pierreux, Dieu dit, incirconcis de cœur, peuple au cou raide. On parle de la France comme la fille aînée de l'Église. J'ai envie de demander, attendez voir de quelle Église parlez-vous, là. Quand je vois la Love Parade à Paris, s'il vous plaît, montrez-le-moi. Incirconcis, Jésus dira, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort, sois vigilant. Les pharisiens, eh bien Jésus va en parler très virulemment en disant, race de vipères, sépulcre blanchi. Oui, il vous parlait de Dieu. Ils connaissaient par cœur les versets bibliques. Lorsque les rois mages sont venus, enfin les mages sont venus d'Orient pour demander où était né Jésus, enfin le fils de Dieu qui allait naître, le roi des Juifs. Mes amis, ils n'ont pas rassemblé une éminente assemblée de savants théologiques. Il suffisait d'appeler un de ces pharisiens pour lui demander qu'il vous citait par cœur et droit de go le verset qui disait qu'il allait naître à Bethléem. Mais aucun d'eux n'y est allé. Ce sont des étrangers qui vient d'aller adorer Jésus. Mais aucun des pharisiens qui connaissait la Bible par cœur. Combien de Français prétendent être chrétiens, mais vivent comme de vulgaires païens? On fait comme si de rien n'était. C'est normal de tromper sa femme. C'est normal d'aller voir ailleurs que chez elle. C'est normal. Comment? Vous osez dire le contraire, mais vous êtes arriéré. Vous êtes rétro. Vous manquez de modernité, vous. Récemment, j'ai lu un article dans le Femina, là, journal de l'Alsace, où on parlait des comportements et des conseils des psychothérapeutes ou des psychiatres aux couples échangistes. Je me suis dit, tiens, ils ont demandé combien de femmes aimaient cela. J'aimerais vous dire, c'est venu conforter ce que la Bible disait depuis fort longtemps, moins de 1%. Autrement dit, les femmes mariées préfèrent de loin que leur mari soit fidèle. Pour lui et pour lui tout seul, personne d'autre. Bien-aimé, c'est Étienne, le diacre, qui va parler à ces pharisiens et leur dire avant de mourir, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire qu'il y a dans ce monde un tas de gens religieux, mais opposés au Saint-Esprit. Le sol chardonneux. Ce sont les gens, à mon avis, à début fortement prometteurs, mais qui, avec le temps, se laissent embobiner par un tas de choses. Ce sont les chardons qui reprennent le dessus. Luc 8, 14 dit la chose suivante, un texte parallèle dit que ces gens-là laissent la bonne plante étouffer. Autrement dit, au lieu de soigner le jardin secret de leur cœur, les chardons prennent le dessus et viennent étouffer la bonne semence. Viennent étouffer la bonne semence, indiquant ainsi un manque de soins, un manque de vigilance, un manque de travail dans le jardin secret. Ces derniers temps, il était parlé ici souvent de l'ordre dans le cœur. Mes amis, nos cœurs ressemblent à des jardins secrets et ils ont besoin régulièrement d'être travaillés, d'être labourés, d'être désherbés, d'être soignés, afin que Dieu puisse venir y résider. Marc 4, verset 18, dit la chose suivante, en qui les soucis du siècle présent, les soucis, ou alors aussi la séduction des richesses, et enfin l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole de Dieu et la rendent infructueuse. Voulez-vous savoir qui sont ces gens qui appartiennent à la catégorie 3? Ce sont les croyants, oui, qui sont nés de nouveau, oui, qui ont passé par les eaux du baptême, oui, qui marchaient pendant un temps avec Jésus, mais qui au bout d'un moment, pour une raison X ou Y, ont commencé à avoir un cœur partagé. C'est à la fois, oui pour Dieu, mais aussi, tu comprends bien frère, pour mes enfants, pour mon mari, pour toutes sortes de bonnes raisons, eh bien, on commence à se laisser aller. Ce qui était blanc et noir avant devient de nouveau gris clair, puis gris tout court. Parfois, c'est vrai, c'est gris foncé, mais enfin, c'est toujours gris, c'est pas noir. Il y a telle scène au téléviseur, il fut un temps en arrière, quelques 2 ans auparavant, aurait été condamné violemment. Maintenant, ça devient... Bah, c'est pas grave, c'est pas si grave que ça, quand même. Si on va à la plage, on en voit partout, hein. Oui, c'est... ces gens au cœur partagé, ces croyants au cœur partagé, très religieux, ils croient en Dieu, ils lisent la Bible, ils prient à table, ils vont à l'église, ils font tout ce qu'il faut faire pour. Mais quelque part, bien-aimé, Jésus est devenu le passager. Il n'est plus le pilote de la maison. Il est devenu le passager. Avant, il avait le volant de votre vie en main. Maintenant, il n'est plus que le passager. Quand au bout d'un moment, il n'est plus que aussi la roue de secours ou le filet de secours. Et à la fin, il fait partie des meubles. Autrement dit, Jésus n'est pas le maître à bord. Et le nombre de croyants bien-aimés qui ont connu ce genre de moment où Jésus est passé à la troisième, voire à la cinquième place. Ils sont devenus tranquillement, mais imperceptiblement tièdes. Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est au fil des mois et des mois, voire des années, que tout à coup, eh bien, le zèle du départ n'est plus là. C'est encore devenu une vie religieuse, mais il n'y a plus la vie avec Christ. Il y a eu parfois une lente érosion de la conscience. On lui marche dessus une fois, elle fait « aïe !» Une deuxième fois, elle fait « aïe !» Et à la fin, elle ne fait plus rien du tout. Ça peut vous expliquer des fois que vous trouvez des croyants en train de faire des choses terribles. Quand je lis la vie de Salomon, par exemple, je m'étonne. Salomon, cet homme à qui Dieu demande « demande ce que tu veux, je te le donne. » Et il répond avec une sagesse incroyable, mais « Seigneur, je ne veux ni argent, ni or, ni richesse, ni gloire, mais ta sagesse pour diriger ton peuple, aide-moi, Seigneur. » Et Dieu lui dit, « Puisque tu m'as demandé ni or, ni argent, ni richesse, ni gloire, je te donnerai la sagesse et le reste en plus. » Et cet homme va réaliser le plan de Dieu pour sa vie. Quelle destinée incroyable! Il sera le roi le plus remarqué de la terre à l'époque. Vraiment, riche, glorieux, plein de sagesse. Mais si vous lisez bien les textes, vous allez vous rendre compte que petit à petit, au fur et à mesure que le temps avançait, cet homme a commencé à jouer avec le péché. D'abord, il va acheter des chevaux en Égypte. Et puis, il va prendre une femme, et puis une deuxième, et puis une troisième. Et à la fin, il en avait autant que la moitié de cette salle. Mais le drame de l'histoire bien-aimée, c'est qu'à la fin de ses jours, quand il a vieilli, quand il avait moins de force, ces femmes qu'il avait prises de ci, de là, qui ont emmené leur culture et leur religion, ont réussi à détourner son cœur de l'adoration du Dieu d'Israël. Les chardons sont venus, les mauvaises herbes sont venues et ont étouffé la bonne parole de Dieu dans sa vie et l'a rendue infructueuse. Bien-aimé, Jésus dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Hein, c'est parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Mais c'est vrai. Bien-aimé, il y a un homme du nom de Judas. C'est plus proche de nous, n'est-ce pas? Mais cet homme m'a toujours frappé par son évolution personnelle. On le voit arriver à Jésus. Il marche avec lui. Il chante avec lui. Il évangélise avec le Seigneur. Il le voit guérir des malades, il en fait autant. Il part chasser les démons, il prêche l'évangile. Il a entendu les meilleures prédications qu'on ait pu entendre de la bouche de Dieu même. Il avait été choisi par Dieu pour être parmi la troupe d'élite. Et pourtant, apparemment, tranquillement, au fil des années, au fil des mois, son vieux démon l'a repris. L'amour de l'argent, la cupidité. Et Jésus, malgré cela, l'a laissé être trésorier. C'est assez paradoxal, n'est-ce pas? Et Jean 12, verset 6 nous dit que de temps en temps, Judas piquait dans la caisse. Déjà à l'époque, ça existait. Hein? Mais voyez-vous, à un moment donné, à force de jouer, à force de mettre la main dans l'engrenage, c'est l'engrenage qui l'a mangé. Est arrivé le jour où il n'a plus pu résister et où c'est le péché qui l'a mangé et il va aller vendre son maître pour 30 sicles d'argent. Le prix d'un esclave. Le drame, mes amis, c'est que Judas a eu du remords, mais ne s'est jamais repenti. Et j'aimerais te dire, si tu veux que vraiment ça change, j'aimerais te dire, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Secoue-toi. Oui, réveille-toi. C'est Paul qui le dit. Réveille-toi, toi qui dors. Il n'est pas dit que Jésus va te réveiller. Il est dit, toi, réveille-toi. Toi, relève-toi. Et le Christ te montrera le chemin à suivre. Il est temps de choisir. Nous avons chanté avant, rien que toi Seigneur. Alléluia.
Mais demain matin, c'est aussi rien que toi, Seigneur. Et demain soir, mon téléviseur, c'est aussi rien que toi, Seigneur. Bien-aimé, si nous voulons que la France se réveille, c'est nous qui devons d'abord être réveillés. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Amen. Le dernier sol, la dernière catégorie, c'est le bon sol. Le drame dans ton premier groupe, c'est qu'aucun des trois groupes n'a porté du fruit. Aucun n'a porté du fruit. Il y a eu de l'espérance par endroit, mais jamais de fruit. Il y a eu une tige, il y a eu des grains, mais jamais de fruit. Là, enfin, il y a du fruit. Ces gens-là, qui sont-ils ? Eh bien, ce sont des gens disponibles pour Christ, porteurs de fruits à divers degrés. Et à mon avis, ils le sont parce que régulièrement, ils ont laissé le divin jardinier aller émonder, biner, nettoyer, enlever les mauvaises herbes. Et ils ont dit, oui, Seigneur, vas-y, la branche mauvaise, là, vas-y, coupe-la, Seigneur, vas-y, coupe-la. Aïe, ça fait mal, mais Seigneur, je t'aime tellement. Seigneur, vas-y, oui, ce péché, oui, telle attitude. Seigneur, vas-y, travaille en moi. Émonde-moi, purifie-moi. Et à force d'être purifié, ils ont porté du bon fruit. Amen. Ils ont porté du bon fruit. Ils ont un point commun. Chacun a vécu une vraie conversion, une vraie nouvelle naissance. Ils ont intérieurement le témoignage de l'Esprit qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Ils savent, oui, je suis sauvé. La Bible est leur boussole et leur plan de route. Et quand Jésus parle, ils appliquent. Ils portent du fruit, l'un beaucoup, l'autre encore plus, le troisième encore mieux. Un exemple biblique à l'appui, Saul de Tarse. Saul de Tarse, un homme très religieux, violent, persécuteur de l'Église, prêt à tuer les chrétiens pour plaire à Dieu, prêt à les mettre en prison pour plaire à Dieu. Un homme qui croyait bien faire, mais qui était mal informé. Le nombre de gens qui pensent bien faire, mais qui sont mal informés. Mais quelle conversion sur le chemin de Damas, quel revirement quand il rencontre le Christ. Il est complètement bouleversé, changé. C'est lui qui dira, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et mes amis, ce qui me plaît encore plus chez lui, c'est la détermination avec laquelle il continue de marcher avec Christ. Dans Philippiens 3, verset 14, voilà ce qu'il dira, du fond d'une prison, là où peut-être j'aurais dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais là, moi l'apôtre? Seigneur, c'est pas normal, je devrais être dehors en train d'évangéliser. C'est bien qu'il aurait râlé avec Dieu. Mais non, voilà ce que Paul va dire à l'église de Philippe. Il va dire, frère, je fais une chose parmi la foule de choses à faire, j'en fais qu'une seule, oubliant ce qui est en arrière, les coups, les blessures, les persécutions, les rejets, les trahisons, les faux frères, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Il n'a pas dit, je déambule vers le but. Non, il dit, je cours vers le but, je cours. Mes amis, celui qui a déjà fait un 100 mètres, il le sait. Il faut qu'il fasse une chose. Une fois qu'il s'est levé des starting blocks, il faut qu'il garde la tête fixée sur le but. Et quand il a fait ça, il va l'atteindre. Regardez à droite, ni à gauche, il court vers le but afin de tenter de remporter le prix de la vocation céleste. Je fais une chose. Et c'est ainsi que cet homme-là a porté 30 fois, 60 fois, 100 fois plus. Osons faire comme lui. Quatre catégories d'hommes et de femmes en route vers l'éternité. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de changer de catégorie. C'est qu'il y a des passerelles entre les différents chemins et qu'il est possible d'aller vers le chemin qui est le bon sol, celui qui porte du bon fruit. Il est possible de changer de chemin en prenant la passerelle de la croix. Pour les uns, ce sera la croix de la repentance. Pour nous autres, ce sera la croix du salut, d'accepter enfin le Christ. Fais-tu partie de la catégorie numéro 1 ? Es-tu quelqu'un de brave, de gentil, d'intelligent, qui mène une bonne vie, mais qui n'a jamais reçu Christ au fond de toi ? J'aimerais te dire, rappelle-toi Nietzsche, il est mort aussi, avec sa grande bouche, et Dieu, lui, est toujours en vie. Il n'est jamais mort. Deuxièmement, ferais-tu partie de cette catégorie de chrétiens de nom, d'apparence ? Oui, apparemment, c'est quelqu'un de chouette, mais au-dedans de toi-même, tu sais très bien que le fond n'y est pas, qu'il y a incohérence entre ce que ta bouche dit, ce que ton cœur pense, ce que ta main fait. Repends-toi, reviens à Dieu, permets que réellement cette révolte intérieure, cette rébellion intérieure soit brisée et que tu trouves la vie. Ferais-tu partie de la troisième catégorie,
Mais un chrétien tiède ou vaincu, où Jésus n'est pas le maître à bord, change de place. Reprend la place du passager et redonne le volant au Seigneur. Il sait ce qu'il fait et il le fait tellement mieux. Amen. Peut-être fais-tu partie de ces gens qui, actuellement, sont debout, sont forts, portent du fruit 30 fois, 60 fois, 100 fois plus. Frère, continue. Fais une chose, oubliant ce qui est derrière, te portant vers ce qui est devant toi. Cours vers le but. T'arrête pas en si bon chemin. Continue de courir et encourage d'autres dans la course. Entraîne d'autres à courir avec toi. Amen. Que Dieu nous aide.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.